14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
D'une certaine façon, je devais obéir. C'était une question de vie ou de mort.
Bonjour, on le surnommait El Patron, El Doctor ou encore El Diablo, le diable. 18 ans après sa mort, criblé de balles sur un toit de Medellín, Pablo Escobar continue à exercer une fascination mêlée d'effroi. Le fameux cartel de Medellín a été la plus grande et la plus profitable entreprise criminelle de tous les temps. Un empire qui s'étendait sur 12 états, rapts, règlements de comptes, exécutions sommaires de policiers, des victimes innombrables. Elle serait environ 8000. Pendant une vingtaine d'années, Pablo Escobar a ainsi été le vice-roi obscur d'une Colombie livrée à elle-même. Un homme riche de milliards de dollars qui allait finir comme une bête traquée. C'est cette vie, celle du plus grand criminel de la planète, qu'a partagé pendant toutes ces années son épouse, Maria Isabel Santos Escobar. Elle sort aujourd'hui du silence avec un livre retentissant, La vie secrète de Pablo Escobar, aux éditions Albin Michel. Nous la recevons aujourd'hui en exclusivité dans l'heure du crime. Avec elle, nous allons remonter le fil de la vie de Pablo Escobar. Elle nous dira pourquoi elle n'a jamais pu quitter ce monstre au nom duquel elle demande pardon.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, Pablo Escobar, un empire de poudre blanche et de sang, les vies du plus grand narcotrafiquant de la planète à travers le regard de son épouse, invité exceptionnel aujourd'hui, trajectoire, qui commence vraiment à émerger au milieu des années 70. En cette année 1975, Pablo Escobar, 26 ans, est déjà un criminel accompli. La légende raconte que ce fils d'une famille pauvre a commencé sa carrière en revendant des pierres tombales dérobées dans des cimetières, puis a touché à tout. Fournisseur de faux diplômes de l'université de Medellín, où il est inscrit quelques mois, revendeur de tickets de loto falsifiés, receleur de voitures volées. À Medellín, ville déjà livrée à tous les trafics, il passe vite à la vitesse supérieure en se lançant dans une activité alors en plein essor. Le rapt de gros commerçant et cadre supérieur, Escobar, bien renseigné, implacable, excelle dans cette pratique qui le rend riche. Comment ai-je commencé ? J'avais envie de vivre et j'avais de l'ambition, dira-t-il. Escobar raconte avoir découvert le trafic de drogue dans une discothèque. Un jeune Américain lui a expliqué comment, dans son petit avion, il a fait passer quelques kilos de cocaïne aux États-Unis. Le plus facile des trafics et aussi le plus juteux. À Medellín, le parrain local de la drogue s'appelle alors Fabio Restrepo. Il n'a aucune considération pour ce Pablo Escobar, qui souhaite faire du commerce avec lui. Trois semaines plus tard, Restrepo est retrouvé mort, criblé de balles. Premier cadavre exquis qui fait de Pablo Escobar le nouveau patron de la cocaïne à Medellín. Pablo Escobar voit grand pour ce marché régional qui pourrait devenir mondial. Il se sert en Équateur, au Pérou, en Bolivie, transforme la pâte de coca en poudre blanche dans une maison de Medellín, équipée comme un laboratoire de chimie. Il utilise les premières mules, ces passeurs qui pour quelques centaines de dollars traversent les frontières avec l'estomac bourré de cocaïne, empaqueté dans des préservatifs. L'argent rentre à flot. Après un an d'intense activité, le parrain de Medellín attire pour la première fois l'attention de la justice. Au mois de mai 76, la police a arrêté 6 de ses hommes, saisi un camion aux pneus plein de pâtes de coca. Escobar va se retrouver au tribunal. Il tente alors de corrompre le juge, sans succès. Les deux policiers qui ont fait l'enquête disparaissent du jour au lendemain. On va les retrouver morts. Plus aucun accusateur. Les charges visant Pablo Escobar sont levées. En ce début des années 80, rien ne semble pouvoir interrompre l'ascension effrénée de Pablo Escobar. Il a pris de court les autorités colombiennes, tout comme la DEA, la police antidrogue américaine. Escobar va bientôt disposer d'un stock permanent de 40 à 50 tonnes de cocaïne prêtes à être livrées. Du jamais vu dans l'histoire des narcotrafiquants. Il peut s'appuyer sur une petite armée d'hommes à tout faire, transporteurs, coordinateurs et surtout tueurs. 500 sicarios, selon la DEA américaine. 500 hommes qui règlent les comptes et font régner la terreur. Escobar et l'un de ses associés achètent sous des prête-noms des terres sur l'île de Normans Cay, aux Bahamas. Ils aménagent une piste d'atterrissage, ils font construire un hôtel pour touristes et un entrepôt réfrigéré pour officiellement y entreposer des ananas et des bananes. Normans Cay devient la plaque tournante insoupçonnable du trafic de cocaïne à destination de l'Amérique. Escobar a la trentaine, il est riche et depuis 1976 marié à Victoria Eugenia Henao, qui un jour changera de nom et deviendra Maria Isabel Santos Escobar. Bonjour Maria Isabel Santos Escobar.
Buenas tardes, muchas gracias.
Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, de nous donner l'exclusivité radio pour cet entretien à l'occasion de la sortie de votre livre « La vie secrète de Pablo Escobar » aux éditions Albin Michel. Maria Isabel Santos Escobar, vous avez 15 ans en 1975 quand vous épousez Pablo Escobar. Vous étiez encore plus jeune quand vous l'avez connu. Quand vous vous mariez, il est déjà installé dans le crime, on vient de le raconter. Que savez-vous de lui à cette époque? Vous connaissez sa vie parallèle, sa vie illégale?
Realmente en ese momento de la adolescencia,
au moment de l'adolescence, j'étais un enfant. Je n'avais pas connaissance de la situation. Nous sommes mariés, amoureux, un peu aveugles, désireux de fonder un foyer. Donc j'étais assez éloignée de cette réalité.
Alors vous êtes une jeune fille naïve, et à cet âge-là on est toujours naïf évidemment. Quand est-ce que vous apprenez que votre mari est un criminel, un narcos, et quelle va être alors votre réaction?
Ah ben, realmente... À partir de la mort, le ministre
dès la mort du ministre Bonilla en 1994, ça a été un avant et un après pour nos vies. C'est là où on découvre la situation de Pablo dans le pays.
Et donc, vous nous dites que vous apprenez l'activité illégale de votre mari 9 ans après votre mariage. Vous n'avez pas de doute sur ce qu'il faisait réellement Pablo Escobar dans la vie?
Il me disait toujours qu'il s'occupait de l'immobilier, de l'élevage, et on ne pouvait pas s'en apercevoir à la maison parce que c'est quelqu'un qui partait travailler dans son bureau, et moi je m'occupais de mes enfants, de la maison, donc je n'avais pas un contact direct avec ce qu'il faisait lui dans son travail.
C'est quelqu'un, vous le dites dans votre livre, je crois que c'est quelqu'un qui est très discret, il n'est pas très bavard, vous ne lui posez pas beaucoup de questions et lui ne vous dit pas tellement ce qu'il fabrique, c'est ça?
Non,
parce que c'est une culture païsa, machiste. Les femmes n'ont pas le droit de poser des questions ni d'avoir un avis.
Vous avez une vie florissante à l'époque. Vous avez tout ce qu'il faut, le confort absolu, de l'argent.
C'était
une vie florissante entre guillemets. Si nous analysons les choses, toute la vie avec mon fils, lorsque nous analysons la situation, disons que c'était 4 ans de prospérité. C'était un temps très court. Tant de bien-être et de nombreuses années de tragédie.
Comment est-il, j'ai envie de dire, dans l'intimité, Pablo Escobar? C'est quelqu'un qui est attentionné, je crois, avec ses enfants. Jamais on peut se douter qu'il ait du sang sur les mains. Vous ne vous en doutez pas, vous, à cette époque?
Non, realmente Pablo fue un hombre muy seductor.
A été un homme séducteur, il a été un très bon père. Il était près de ses enfants, il leur racontait des histoires. Mon fils adorait ça avec moi. C'était un homme très séducteur, romantique. Il m'offrait des fleurs, m'envoyait des lettres d'amour. C'était deux personnes différentes dans dans le même personnage. Il y avait le Pablo Escobar de l'extérieur et le Pablo Escobar de la maison, de l'intérieur.
Et le Pablo Escobar de l'extérieur, évidemment, il y a le trafic de drogue, on va en reparler. Mais il y a aussi, vous consacrez plusieurs pages de votre livre à cette histoire. Il a beaucoup de maîtresses, Pablo Escobar. Il vous trompe.
Muy infiel, muy
oui,
infiel,
très infidèle.
Et grandes dolores,
c'était très difficile, pénible, douloureux. Et c'est pour ça qu'à de nombreuses occasions, j'ai voulu me séparer. Et il me disait non, non, il n'allait pas abandonner son foyer ni sa maison pour aucune raison, sous aucun prétexte. Et à ce moment, je le voyais comme un acte d'amour. Malgré tout, il voulait rester à mes côtés. Et avec les années, j'ai consulté avec des spécialistes, neurologues, experts dans les stress post-traumatiques. Et ils me montraient que je vivais avec un psychopathe. Et les psychopathes sont très séducteurs dans les relations avec les gens.
Pablo Escobar, le psychopathe, est riche à millions. La Colombie et les États-Unis n'ont pas encore pris la mesure des activités du cartel de Medellín et de son boss. Celui-ci ne va cesser de grossir au point de se voir peut-être un jour à la tête de la Colombie. En ce mois de février 1979, Pablo Escobar fait visiter à son épouse Victoria l'immense propriété qu'il vient d'acheter à Valledupar, à 750 km au nord de Medellín. 850 hectares de jungle insalubre acquis pour $820,000. Une goutte d'eau pour le trafiquant qui, déjà, ne sait plus quoi faire des sacs de dollars qui s'accumulent. Escobar, atteint de la fièvre acheteuse, va devenir propriétaire de 8 autres adresses, dont la plus célèbre, celle de Naples, qu'il dédie à l'un de ses héros, le roi de la pègre, Al Capone, d'origine italienne. Un petit avion trône à l'entrée de l'immense hacienda de Napoles. L'histoire dit que ce monomoteur Piper était le premier qui a servi au transport de drogue. Il ne s'agit en fait que d'un appareil s'étant écrasé au décollage. Les visiteurs aperçoivent ensuite la carcasse d'une vieille Ford de 1936 criblée de balles, le véhicule dans lequel auraient péri Bonnie and Clyde. Escobar en a fait tirer par ses gardes du corps 167 projectiles dans la voiture pour une reconstitution plus vraie que nature. Napoles possède encore un héliport enfoui dans la végétation, la plus grande piste de motocross d'Amérique latine et un zoo, des animaux achetés à prix d'or, lions, kangourous, hippopotames, perroquets et dauphins roses d'Amazonie. Un zoo au cœur de la jungle et ouvert au public. Son épouse dira avoir vu alors le trafiquant rayonnant et radieux. Pablo Escobar est un tueur sans scrupules qui joue les Robins des Bois. À Medellín, son argent sale inonde des programmes sociaux et immobiliers. Il fait construire, le plus souvent dans la plus totale illégalité, des maisons, des écoles et des stades de football pour les plus démunis. On ferme les yeux sur ses activités, on ne voit que le héros des pauvres. Est-il sincère ou met-il à sa botte une population qui lui sera dévouée, le protégera de la police et lui rendra n'importe quel service? Il entre en politique même si sa mère l'a prévenu qu'il signait là son arrêt de mort. Le 20 juillet 1982, il est élu membre de la Chambre des représentants de Colombie. Il n'est officiellement qu'un homme d'affaires, mais les Américains l'ont dans le collimateur. Le président Reagan vient de déclarer une guerre totale aux narcos. Un journal de Bogota rappelle l'arrestation d'Escobar 7 ans plus tôt pour possession de cocaïne. Le rédacteur en chef est exécuté. Le ministre de la Justice, Rodrigo Larra Bonilla, dénonce Escobar. Il est tué dans un guet-apens. C'est le premier ministre d'État assassiné en Colombie. Pablo Escobar devient alors l'homme le plus recherché du continent américain. Commence pour le patron du cartel de Medellín, son épouse Victoria, mère d'un petit garçon de 7 ans, et qui est alors enceinte d'un deuxième enfant, 7 années de traque et de clandestinité. Au milieu de cette cavale, Juan Pablo Escobar, le fils, se souviendra d'avoir logé une semaine dans une maison misérable de Medellín, sans pouvoir rien manger, malgré 2 sacs en plastique que gardait son père, enfermant chacun $1 million. La famille trouve refuge au Panama, puis ne cesse de changer d'adresse. Escobar est pourchassé de toutes parts. Police, armée, le cartel concurrent de Cali et même par les guerrieros des FARC. Les assassinats signés Escobar font rage, pêle-mêle. Hommes politiques, hommes de main, prostituées, soupçonnés d'informer la police et surnommés las pipeletas, les pipelettes. Des dizaines de cadavres. Le parrain fait même exploser un avion de la compagnie nationale Avianca avec 107 personnes à bord. Il visait un politicien hostile qui finalement n'a pas embarqué. Et voilà donc pour les années de feu de Pablo Escobar qui va construire un empire de plus en plus vaste. Maria Isabel Santos Escobar, notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que votre mari a eu la folie des grandeurs? Je pense notamment à la maison de Napoles dont je viens de parler, cette hacienda incroyable. C'est une espèce de couronnement, on va même dire que Escobar à cette époque est devenu le vice-roi de Colombie.
A ver, él sentía una gran preocupación por las clases sociales.
Que il était très préoccupé par les sciences, par les classes sociales. Et quand il a créé l'espace, tout cet espace de l'Hacienda Nápoles, c'était en pensant que la plupart des habitants de Colombie n'avaient pas l'argent suffisant pour aller visiter un zoo à l'air libre. Ailleurs. Donc il disait qu'il créait cet espace pour que les Colombiens puissent en profiter et connaître cet endroit. Donc 12 000 personnes venaient le week-end pour visiter l'Hacienda Nápoles gratuitement.
Et c'est un incroyable décor, cette hacienda, avec ce zoo, ces aménagements, c'est complètement irréel dans cette jungle colombienne.
Si. Sont choses que se peut mirer à la distance.
Aujourd'hui, lorsqu'on prend une certaine distance, on peut voir cela comme, oui, à ce moment-là, au fur et à mesure des événements, petit à petit, on ne se rendait pas vraiment compte de la dimension de tout ça.
Je voudrais qu'on revienne avec vous, Maria Isabel Santos Escobar, sur l'assassinat du ministre de la Justice. Parce que là, c'est important, c'est un tournant dans votre vie. C'est le début de la fin pour Pablo Escobar.
Si, o sea, fue una situación muy traumática.
Oui, c'était traumatisant pour le pays et pour nous tous, pour toute la famille.
Traverser
la jungle pour voir ma fille, puis qu'elle revienne dans le pays. Moi, je n'ai pas pu revenir pour des questions de sécurité.
Et
on était divisés, en quelque sorte, le pays aussi.
Vous partez, toute la famille part en exil au Panama. Là, vous savez que Pablo Escobar, il fait des affaires qui sont illégales. Est-ce que votre regard change sur lui à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme?
Ce sont des situations extrêmes, bizarres, parce que justement, lorsque ma fille est née, 15 jours après, il y a une commission qui fait un voyage, une commission qui se rend au Panama pour parler avec Pablo sur la situation du pays
et
comment pouvait-on organiser la situation autrement. C'était très complexe. Il y avait la situation politique, les politiques qui s'approchaient de ce personnage. Donc, on ne comprenait pas bien ce qui se passait à ce moment-là.
Mais vous, est-ce que votre regard sur Pablo Escobar, est-ce qu'il change? Est-ce que vous vous dites, après tout, je suis peut-être avec la mauvaise personne?
J'étais troublée, très troublée à ce moment-là, désespérée, parce que je venais d'accoucher, j'avais ma petite, je me posais des questions, je lui posais des questions, il me disait que les choses allaient s'arranger, que le gouvernement le recherchait, que les choses n'étaient pas telles que les médias disaient, qu'il y avait des responsabilités. Lui avait sa réalité, ses vérités, et moi j'étais dans mon rôle de mère, de tête de famille avec mes enfants. Je n'avais pas trop d'espace pour la réponse et pour analyser les choses. D'une certaine façon, je devais obéir. C'était une question de vie ou de mort.
Alors, question de vie ou de mort, justement, est-ce que vous allez rester avec Pablo Escobar par amour ou bien par peur ? Parce qu'il vous fait peur, cet homme.
J'étais très inquiète, j'avais très peur à ce moment-là. Et il me dit que je ne peux pas rentrer en Colombie. Il ne me laisse pas rentrer en Colombie parce que je suis menacée de mort. Je ne comprenais pas pourquoi j'allais être tuée si j'étais enceinte, si j'attendais un enfant. Et j'étais une mère, mais on allait me tuer parce que j'étais sa femme à ce moment. Donc, je ne pouvais pas rentrer en Colombie. Donc, j'ai dû m'éloigner de ma fille quelques mois avant de pouvoir la rejoindre.
Vous avez pensé à un moment donné qu'il aurait pu vous tuer si vous étiez parti, si vous vous étiez enfui?
C'est une situation extrême, très difficile. J'ai pensé beaucoup, beaucoup de choses. Lorsque je me passe le film dans la tête, mais la réalité, c'est que je n'ai pas pu rentrer en Colombie pour des questions de sécurité et je n'avais pas non plus les moyens. J'étais dans un endroit où on devait se protéger, mais moi, je ne pouvais prendre aucune décision pour pouvoir partir de cet endroit.
Une famille prisonnière, Pablo Escobar comprend que cette escalade sans fin va finir par l'emporter. Toutes ces années passées à soudoyer les uns et les autres jusqu'au cœur de l'État lui ont donné des passe-droits. Il va donc se rendre, mais sous certaines conditions. Le 19 juin 1991, Pablo Escobar, patron du cartel de Medellín, qui compte alors une armée estimée à 3000 sicarios, des hommes à tout faire qui tuent pour une poignée de dollars, Escobar se constitue prisonnier. L'air est devenu irrespirable. Le trafiquant risquait à tout moment d'être arrêté par les Américains et décopé chez eux d'une centaine d'années de détention. Il s'est engagé à cesser toute activité criminelle contre une peine réduite et promesse de ne pas être extradé. Il a aussi négocié son point de chute, une prison qu'il a fait aménager sur mesure, la cathédrale à Envigado, un terrain de foot, un jacuzzi, une discothèque. Escobar dispose de vastes appartements et d'une dizaine de gardes du corps. La police doit rester à 20 km de la forteresse. Escobar reçoit ici qui il veut. Les prostituées défilent, souvent très jeunes. Il ne veut que des filles âgées de moins de 18 ans. Derrière ces murs, Escobar continue surtout à piloter son cartel, toujours aussi impitoyable. Deux de ses adjoints, deux frères soupçonnés de détourner de l'argent, sont invités à la cathédrale et assassiné. Après un an de détention, les autorités décident de changer le trafiquant de prison. Il est averti de ce changement. Il s'évade. Pablo Escobar, fugitif numéro 1 du continent américain, sombre dans la clandestinité, contraint de changer sans cesse de planque à la tête d'un empire qui s'effrite. Le cartel concurrent de Cali et une mystérieuse organisation paramilitaire, Los Pepes, pourchasse sa famille, femme et enfants, la famille qui est son talon d'Achille. Il tente de la faire évacuer vers les États-Unis, mais cette famille est bloquée à l'aéroport, contrainte de rester en Colombie et désormais placée sur écoute. Escobar est furieux. Il déclare alors un dernier combat contre les autorités. Il fait exploser un pâté de maison à Bogota. 9 bombes en 2 mois dans la capitale. La guerre fait aussi rage à Medellín. 6662 morts dans des règlements de compte. Un Pablo Escobar qui s'est donc constitué prisonnier à la prison de la cathédrale. Maria Isabel Santos Escobar, vous êtes la veuve de Pablo Escobar et vous êtes aujourd'hui dans l'heure du crime. Comment se passe cette période qui va durer un an? Vous lui rendez visite? Comment ça se passe dans cette prison? D'où d'ailleurs il va continuer à diriger son cartel, Pablo Escobar.
Realmente nosotros pensamos que
nous
ce pas ce que Paul
pa pensé que cette décision, ce pas donné par Pablo était un acte d'amour, de respect, d'un acte d'engagement. Et nous, en tant que famille, parce que nous lui demandions d'arrêter ce cauchemar, et il s'est engagé d'agir correctement pour pouvoir nous donner une vie paisible et la paix au pays, que tout revienne au calme. Malheureusement, les événements qui ont eu lieu ont été différents, donc ça a donné lieu à sa fuite. Et encore une fois, ça a été traumatisant pour le pays et pour nous-mêmes.
C'était
un pays qui nous observait tout le temps et nous courions des risques uniquement. Nous avions des risques parce que nous étions sa famille.
Vous lui avez demandé, vous, son épouse, d'arrêter ses activités, d'arrêter tous ces trafics. Vous lui dites ça à la prison de la cathédrale?
Sí, yo le pedí que parara con la violencia.
Je lui ai demandé d'arrêter la violence. Je lui ai supplié d'arrêter.
Il me disait
toujours
qu'il
cherchait la paix, la tranquillité uniquement pour ses enfants et pour sa famille.
Et bueno, nunca tuvimos los resultados que él prometía que iba a ser.
Jamais eu les résultats escomptés suite à ses engagements.
Il vous avait fait cette promesse d'arrêter, il ne l'a pas tenue?
Sí, él hizo esa promesa.
Oui, il a fait cette promesse d'arrêter et malheureusement
no sucedió.
Ça n'a pas été le cas.
Pablo Escobar, le menteur, est acculé. Il est lancé dans une escalade sans fin de la violence. Il croit encore pouvoir gagner la partie, mais cette fois, tout le monde est contre lui. L'issue sera fatale. Ce jeudi 2 décembre 1993, Pablo Escobar se terre dans une maison du quartier de Los Olivos, à Medellín. L'homme est épuisé, rongé par les amibes contractées dans la jungle, transformé par son inactivité forcée. Il pèse désormais 115 kilos. La veille, il a fêté son 44e anniversaire en tête-à-tête avec son dernier garde du corps, son cousin et ancien chauffeur de sa mère, surnommé El Limón, le citron. Ses 9 lieutenants et ses 3 meilleurs tueurs ont été soit arrêtés, soit abattus. Il avait réussi à mettre à l'abri sa famille en Allemagne, mais ce pays vient finalement de renvoyer tout le monde en Colombie. Il veut avoir de leurs nouvelles. À 13h37, il téléphone à son fils, communication trop courte pour que le bloc des Busquedas, le groupe de recherche du général Octavio Vargas, puisse localiser l'appel. Jusque-là, Escobar a toujours échappé au général, utilisant dans ses propriétés des sorties dérobées ou des tunnels aménagés. À 14h32, comme prévu, le parrain rappelle son fils. L'ordinateur confirme qu'il s'agit bien de la voix du fugitif. Cette fois, le signal est précis. Une zone de 400 mètres carrés autour du terrain de foot d'Olivos. 3 minutes plus tard, 14h35, 3 fourgons de commando s'approchent d'une maison de 1 étage. « Je vois quelque chose de bizarre », dit Pablo Escobar à son fils. « À bientôt !» Le parrain raccroche, alors que les policiers sont à la porte. Le cousin garde du corps tente de s'interposer, mais il est aussitôt abattu. Depuis une fenêtre du premier étage, Pablo Escobar saute sur le toit de la maison voisine. Il ne court qu'une poignée de secondes. Les commandos ouvrent le feu au pistolet mitrailleur. 3 balles dans le crâne, 2 autres dans le pied droit, 1 dans la hanche. Les policiers s'approchent du corps. Le roi de la cocaïne est mort. À 14h50, le général Octavio Vargas indique officiellement que Pablo Escobar Gaviria vient de s'offrir une tombe en Colombie. Maria Isabel Santos Escobar, notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, veuve de Pablo Escobar. Comment apprenez-vous la mort de votre mari une fois qu'il s'est évadé de la prison et recherché par la police? Je suppose que vous n'avez rien oublié de ce jour.
Sì, assolutamente. Oui, absolument.
Cela faisait cinq mois que je vivais protégé par l'État colombien.
Et
aussi, nous avons vécu de nombreux attentats à cette époque.
Quando la morte de Pablo,
estábamos viviendo Bogotá, nous vivions à Bogotá, à Residencia Skendamano, dans un immeuble militaire. Et Pablo nous appelle là-bas de nombreuses fois, désespéré, inquiet par notre avenir. Il disait que notre avenir était très incertain à ce moment-là dans le pays.
Et
il nous interdisait le téléphone. On ne pouvait pas utiliser le téléphone. Et ce jour-là, il a fait tout le contraire. Il nous a appelés de nombreuses fois et il a été détecté, on l'a trouvé.
Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais quand vous apprenez la mort de votre mari, c'est une douleur ou c'est un soulagement ?
J'ai senti une grande douleur à cause de la situation de mes enfants, parce qu'ils avaient perdu leur papa. J'ai senti une frayeur puisque j'ai senti la mort sur mon dos après la mort de Pablo Escobar. Et en même temps, je me suis dit, bon, ce cauchemar est terminé pour lui et pour nous. Et ça n'a pas été vraiment le cas parce que nous avons vécu une année très très difficile, comme je dis dans le livre, parce qu'il y a eu toutes ces négociations que j'ai eues avec les cartels et accompagnées avec l'État colombien à ce moment-là.
Et Maria Isabel Santos Escobar, quand Pablo Escobar est mort, ses deux frères ont dit qu'il s'est suicidé, il s'est exposé au tir des policiers. Est-ce qu'à la fin de son existence, Pablo Escobar, le patron des narcos en Colombie, était à bout de souffle ? Il n'en pouvait plus de cette vie, de cette cavale permanente ?
Oui, il s'est suicidé. Il a toujours dit qu'il allait se suicider et que jamais il n'allait se laisser appréhender. Et en plus d'avoir pris la fuite de la cathédrale, donc c'est sa décision de se suicider.
C'est toujours une douleur chez vous, hein, quand vous parlez de Pablo Escobar. On sent que des années après, vous portez toute cette histoire comme un poids immense.
Oui, c'est comme porter de nombreux icebergs sur mon dos. Et mes enfants également. C'était très dur pour nous tous.
10 000 personnes assistent aux obsèques précipitées du parrain au cri de « Vive Pablo, que Dieu ait pitié de Pablo ». Les cartels concurrents, eux, vont prendre le relais d'Escobar, dont la fortune était alors estimée à 2,5 milliards de dollars. Un an après la mort de Pablo Escobar et alors que son empire est en miettes, sa veuve, qui s'appelle toujours Victoria Eugenia Henao, obtient l'autorisation d'aller se recueillir sur la tombe de son mari. Déplacement avec ses deux enfants sous la haute protection de la police. Une famille qui continue à être traquée, sa fortune supposée, suscitant toutes les convoitises. En février 1994, le procureur général de Colombie accepte un changement de nom. Victoria devient Maria Isabel Santos Caballero. Ses enfants reçoivent le nom de Marroquín Santos. Le 14 décembre 1994, départ pour un long exil, Équateur, Mozambique, un pays dévasté par la guerre et à qui la famille a versé une somme astronomique pour pouvoir y résider, mais qu'elle quitte aussitôt pour s'installer en Argentine. La veuve de Pablo Escobar y vit ici sans beaucoup d'argent et dans une semi-clandestinité, changeant d'adresse tous les deux ans. En 1999, les Escobar sont démasqués. La mère et son fils, Juan Pablo, sont incarcérés pour usage de fausses identités et soupçons de blanchiment d'argent de la drogue. Ils seront totalement innocentés. 18 ans après la mort de El Patron ou d'El Diablo, son histoire continue toujours d'alimenter fantasmes, interprétations, révélations et curiosités. Son frère Roberto, surnommé l'ourson, ancien comptable du cartel de Medellín et qui a passé 14 ans en prison, joue aujourd'hui les tour opérateurs à Medellín. Il fait visiter les hauts lieux de la légende Escobar aux touristes, ses haciendas, la prison de la cathédrale, jusqu'au toit où il a été abattu, dans le quartier redevenu tranquille de Los Olivos. Maria Isabel Santos Escobar, qui est notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, vous avez changé de nom parce que vous y avez été évidemment obligée. Est-ce que le nom de Escobar est toujours aussi dur à porter aujourd'hui ?
Oui,
malheureusement, nous avons dû changer d'identité parce que aucun pays dans le monde ne voulait nous accueillir pour élever mes enfants. À ce moment-là, ma fille avait 8 ans et mon fils 16. Je ne pouvais pas vivre en Colombie parce que habiter en Colombie, c'était la mort. Et je ne pouvais pas compter sur la protection de l'État colombien avec 400-500 personnes de l'armée. J'avais besoin de chercher une vie, de l'air, de l'espace pour mes enfants, pour les éduquer, pour qu'ils soient des gens de bien et pour ne pas répéter cette histoire aussi douloureuse. La seule issue était le changement d'identité. Et être rien, personne.
Rien, personne. Et aujourd'hui, quand vous dites Madame Escobar, on vous dit c'est la même famille, je suppose.
Oui,
mais je sens comme si c'est quelque chose comme une introspection, regarder l'histoire, la reconnaître, de me rendre compte des violences dans lesquelles j'ai vécu à l'époque de mon adolescence. Et lors de tous ces enfermements, nous avons vécu pratiquement 10 ans enfermé, caché, parce que Pablo, chaque semaine, nous disait « Patience, la semaine prochaine, les choses vont s'arranger, tout va très bien, mon seul souci, c'est le bien-être de vous, ma famille. » Il avait un grand discours, il était très amoureux, affectueux, et ce discours, semaine après semaine, nous a conduit à 10 ans.
De Pablo Escobar, hein, vous nous l'avez répété dans cette émission, le bien et le mal, Maria Isabel Santos Escobar, lequel retiennent aujourd'hui les Colombiens ?
Je
suis très affectée lorsque je vois et touchée par les magasins de souvenirs où on vend les t-shirts, les histoires, les récits sur Pablo Escobar. Donc c'est difficile à comprendre cette pensée collective d'une société qui a été aussi maltraitée par toute cette situation. Et néanmoins, je sens qu'on se rappelle plus du bienfaiteur, de celui qui accompagne, plutôt que l'homme qui a généré la violence.
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'avis des victimes, effectivement, en Colombie. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui au drame de ces années, à toutes ces victimes ?
Oui, tout le temps.
J'ai eu l'occasion d'approcher certaines victimes avec beaucoup de respect, avec douleur, et le pardon que je leur ai demandé pour toutes les folies de mon mari. Je regrette énormément tout ce qui est arrivé dans le pays. Et j'aurais aimé que toutes ces propriétés qui ont été reprises par le gouvernement colombien auraient pu bénéficier de ces propriétés ou l'argent de ces propriétés, mais malheureusement ça n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Merci beaucoup Maria Isabel Santos Escobar pour votre témoignage exclusif aujourd'hui sur RTL. Je rappelle le titre de votre livre, La vie secrète de Pablo Escobar chez Albin Michel. Merci à l'équipe de l'émission de l'heure du crime, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation et puis Boris Pirédu qui était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.